J'ai le privilège d'inaugurer notre série d'été sur les fruits de l'esprit. Alors, il s'agit d'un passage bien connu que vous avez certainement déjà entendu, Galates 5, les versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Alors, c'est un beau programme, n'est-ce pas ? L'idée que notre vie, à chacun d'entre nous, soit caractérisée d'amour, de joie, de paix, de patience, d'amabilité, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. C'est génial, hein ? C'est aussi ambitieux de vouloir toutes ces qualités pour sa vie. Alors, chacun des fruits, chacune de ces qualités, on va les regarder l'un après l'autre, à raison d'une par semaine, cet été. Donc, on commence avec le commencement. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Première qualité mentionnée, premier fruit, sans doute le plus grand. Mais en fait, en regardant cette phrase, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, en fait, en parlant de l'amour, je commence un peu avec la fin, avec le résultat. L'amour. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce qu'on entend par l'amour ? C'est la question des âges, n'est-ce pas ? Tout le monde voudrait comprendre ce que c'est que l'amour. On va regarder quelques éléments de ce que la Bible en dit. Premièrement, aimer, c'est une action. Pour moi, c'est l'une des principales choses qu'il faut comprendre par rapport à l'amour, c'est que c'est une action. L'apôtre Jean parle beaucoup de l'amour dans son épître. Vous connaissez bien une citation qui est aussi un chant tiré de Jean 1, 4. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 8. Mais s'il n'y a pas que là que Jean parle de l'amour, un chapitre plus tôt, dans le Jean, chapitre 3, au verset 18, on trouve aussi un verset très intéressant. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Aimer, c'est un verbe. D'ailleurs, je pense qu'on voudrait presque parler de préférence d'aimer plutôt que de l'amour. Ça implique une action. Comment est-ce qu'on sait si on aime quelqu'un ? C'est qu'on est poussé à l'action, pour être à son service, pour l'aider, etc. Est-ce que vous voulez mieux aimer votre conjoint, vos enfants, votre famille, vos frères et sœurs en Christ, vos amis ? Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour encourager, pour soutenir, pour soulager mon conjoint ? Mes enfants, mes amis. Alors, une nuance importante dans le Nouveau Testament, c'est de comprendre en fait qu'il y a différents types d'amour. Dans le grec, langue d'origine de la plupart du Nouveau Testament, il y a trois mots différents qui se traduisent « aimer » ou « amour » en français. Je vais vous les dire. Le premier, c'est « eros ». C'est l'amour passion, parfois physique qui donne notre mot en français érotique. Alors attention, ce type d'amour n'est pas mauvais, c'est une bonne chose dans le bon contexte, a priori entre deux époux. Alors deuxième type d'amour, l'amour philéo, c'est l'amour fraternel, c'est l'amitié. Il y a une ville mentionnée dans l'Apocalypse, la Philadelphie, la ville de l'amour fraternel. D'ailleurs, vous savez bien qu'il y a une ville aux États-Unis de ce nom, et il paraît que le fondateur, un dénommé William Penn, avait une vision d'une ville de tolérance sans persécution, qui ne pouvait que s'appeler la ville de l'amour fraternel. Bon, ramenons ça un petit peu à notre quotidien. Si vous connaissez quelqu'un qui est très sympa, très chaleureux, avec qui on peut facilement discuter, qui est très intéressé aux autres, etc., il est probablement fort en amour philéo. Et puis, troisième type d'amour, l'amour agapé. Et c'est celui qui est utilisé dans notre passage de ce matin. Le fruit de l'esprit, c'est agapé. C'est toujours d'ailleurs agapé qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de l'amour de Dieu pour les êtres humains. C'est un amour profond, sacrificiel et surtout inconditionnel. C'est la qualité, je dirais, la plus importante de l'amour agapé, c'est sa qualité inconditionnelle. Alors, ce qui est drôle, j'ai cherché dans le Nouveau Testament des versets qui diraient quelque chose comme « aimez inconditionnellement » ou « aimez-vous sans condition ». Alors, je n'ai pas trouvé ce mot-là. Mais j'ai trouvé le principe clairement enseigné parce que ce type d'amour inconditionnel est montré, je dirais même démontré de manière très claire dans le Nouveau Testament. Vous connaissez bien Romains 5 et le verset 8. Mais voici comment Dieu vous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, en quoi est-ce qu'on voit l'amour inconditionnel dans ce passage? C'est simple. Dieu démontre qu'il nous aime parce que Jésus est mort pour nous malgré le fait qu'on était encore pécheurs. Dieu avait de très bonnes raisons de ne pas nous aimer. Nous étions pécheurs. Depuis la Genèse, les êtres humains sont en révolte contre Dieu. Mais il nous aime quand même. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Bon, autre mot qu'on pourrait utiliser pour inconditionnel, c'est non mérité. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend de la grâce. Ça fait partie de la définition de la grâce et la faveur, l'amour de Dieu non mérité. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Éphésiens 2, 8 et 9. Dieu nous aime, il nous donne sa grâce, alors que nous ne le méritons pas. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Bon, donc voilà un petit peu pour l'amour, mais comme j'ai dit, j'ai commencé avec les résultats. Mais comment est-ce qu'on en arrive à aimer? Alors, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est un fruit. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là, par un fruit? Parce que cette image de fruit est utilisée à plusieurs reprises dans la Bible. Alors, dans le fond, du fruit, c'est le résultat naturel d'une plante ou d'un arbre en bonne santé. Un pommier qui est en bonne santé, qui reçoit les bons nutriments, qui reçoit la bonne quantité d'eau et de soleil, va donner des pommes à la bonne saison. Moi, j'en dis, normalement, un chrétien en bonne santé aimera. Mais est-ce donc automatique, passif? Est-ce qu'il suffit d'être chrétien pour avoir une vie caractérisée d'amour? Pas exactement. Non, une vie caractérisée d'amour n'est pas quelque chose d'automatique qui vient tout seul sans qu'on ne fasse rien. Mais ce n'est pas non plus le résultat d'un travail acharné, etc. C'est un résultat normal, naturel. Alors, comment s'y retrouver dans tout ça? Il y a quelques années, nous avons regardé ensemble, lors d'une prédication que j'ai donnée, le passage de Jean 15 sur les vignes, le fruit, etc. Et on a beaucoup à apprendre de ce passage sur le rapport entre nous, le fruit et nos efforts. Regardons un extrait, quelques extraits de Jean 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous qui ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous seriez alors vraiment mes disciples. Alors, lors de cette prédication que j'ai donnée, ceux qui étaient là, vous vous souvenez peut-être, j'ai montré beaucoup d'images de vignes, de raisins, de vignobles, etc., dont cette image. Alors, Jésus nous dit à nous, les sarments, les petites branches, de demeurer, de rester attachés au cep. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais rester attachés semble plutôt passif. Parce que regardez l'image, est-ce que ces raisins, cette branche a l'air de super travailler pour bien rester, pour bien s'agrappiller, rester attaché? Non. Toutefois, si Jésus nous donne l'instruction de rester attaché, s'il nous donne une instruction, c'est qu'on peut y faire quelque chose. Moi, j'en conclus que notre attachement à Dieu est quelque chose qu'on peut entretenir et qu'on doit entretenir. Alors, attention, je ne crois pas qu'il y a lieu de comprendre que par manque d'entretien, un chrétien, quelqu'un qui s'est greffé au cep qui est Dieu, pourrait être coupé ou complètement détaché de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. C'est plutôt ce genre de choses qui pourrait arriver. Vous voyez ces raisins qui sont un peu petits, un peu sous-développés, ou même ça. Alors, chose intéressante, si vous voyez dans la photo, vous voyez la tige monte. Ça veut dire que même ces raisins-là sont encore attachés au cep, ils ne sont pas coupés complètement. Un sarment, par manque de soins, peut se trouver en mauvais état. Mais une fois véritablement greffé au cep, il ne s'en retrouve jamais complètement détaché. tel que je le comprends donc, quand Jésus dit de demeurer, de rester attaché, il veut dire de garder notre attachement en bon état. Et si nous portons du fruit, entre autres l'amour, nous glorifions Dieu et nous sommes vraiment ses disciples. C'est bien ça. Regardons un peu plus loin dans les versets 9 et 10 de Jean 15. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alors ça, c'est intéressant. Il est question de demeurer dans l'amour de Dieu. Et Jésus évoque une chose à faire pour demeurer, garder ses commandements. Ça, c'est une chose qu'on peut faire pour rester attaché à Dieu, garder ses commandements. Et fait partie de garder ses commandements, c'est d'entretenir notre relation avec lui, de garder, de développer notre relation, notre amitié, notre proximité avec Dieu, en passant du temps avec lui, en cherchant ce qu'il veut nous dire dans sa parole, etc. Ok, mais afin de voir l'amour manifesté dans notre vie, il faut aussi comprendre que c'est que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, la joie, etc., n'est pas le fruit du hasard, ni des efforts humains, c'est le fruit de l'esprit. Alors, si on remonte un peu dans ce même chapitre, Galates 5, on trouve l'un des enseignements principaux au sujet de la vie par l'esprit. Alors, pour ne pas faire trop long, je vais en tirer quelques extraits. Verset 13. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Alors, il semblerait que les hommes livrés à eux-mêmes soient le contraire du chrétien dirigé par l'Esprit. Alors, Paul continue son explication. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Alors ça, c'est vraiment intéressant. En laissant le Saint-Esprit diriger notre vie, on arrive à résister à tout ce qui peut être désir de péché, etc. En laissant le Saint-Esprit diriger notre vie, on a la puissance de Dieu pour aimer et pour ne pas faire de mauvaises choses. Dans le verset suivant, Paul explique un peu le détail des désirs qui animent, qui motivent l'homme livré à lui-même. Car les désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Et puis, Paul y va, banco. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Tiens, voilà une liste de mauvaises qualités et d'actes, ils sont le résultat de vivre un homme livré à lui-même, c'est-à-dire être dirigé par soi-même. Bon, on pourrait peut-être appeler cette liste quelque chose comme le fruit de la vie dirigée par soi-même. Peut-être. Chose très intéressante, c'est directement au verset suivant qu'on trouve notre sujet. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, etc. Vu comme ça, on voit toute l'importance du mais, n'est-ce pas ? On voit la différence entre la vie dirigée par soi-même et la vie dirigée par l'esprit. D'ailleurs, les qualités de la vie dirigée par soi-même, on recense les haines, les querelles, les rivalités, les divisions. Tout ça, c'est exactement le contraire de l'amour, n'est-ce pas ? Et Paul donne une consigne finale. Puisque l'esprit est source et la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Pour moi, c'est la vraie clé de voir l'amour, le premier fruit de l'esprit, manifesté dans notre vie, c'est de laisser le Saint-Esprit diriger notre conduite et même toute notre vie. Parce que si vous n'avez que votre force humaine pour vivre la vie chrétienne, vous n'irez pas loin. Oui, vous pouvez, par vos forces humaines, changer certaines choses, améliorer un peu. Mais si vous ne puisez pas votre force en Dieu, vous allez peiner. Et quand même, tôt ou tard, vous risquez de retomber dans les problèmes de l'homme livré à lui-même, avec toutes les mauvaises qualités citées. Alors, je vous ai parlé à maintes reprises de la vie remplie de l'esprit, et je voulais pas manquer de vous rappeler juste quelques éléments de base. GPS, guidé par l'esprit, c'est ça le sens de Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, cela ne peut que vous amener à vivre dans le désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Alors, ce passage fait une comparaison un peu étrange. Être ivre ou rempli de vin et être rempli de l'Esprit. Mais, si on regarde de plus près, la comparaison est quand même assez pertinente. Le terme légal aux États-Unis pour la conduite en état d'ivresse, c'est la conduite sous l'influence de l'alcool. Alors, si on est sous l'influence de l'alcool, on va faire certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement, et surtout, on réagit de manière différente. Mais si on vit sous l'influence du Saint-Esprit, on risque de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement, et surtout de réagir différemment. Bon, je pourrais continuer longtemps à parler de cela parce que c'est un de mes sujets préférés, mais je pense que vous avez compris. Alors, récapitulons. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Trois types d'amour: eros, philéo, agapé. Ici, il est question de l'amour agapé, l'amour de Dieu pour nous, avec lequel nous pouvons nous aimer les uns les autres. Cet amour est sacrificiel et surtout inconditionnel. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est un fruit naturel, normal, de notre relation avec Dieu, de notre attachement à lui. Si nous demeurons dans son amour, en gardant ses commandements, en gardant en bon état notre relation avec lui. Et c'est le fruit de l'esprit, l'amour. La manière dont nous pouvons avoir une vie caractérisée par l'amour, c'est en laissant notre vie dirigée par le Saint-Esprit. Et on voit ce qui arrive dans le cas contraire. Si on dirige notre vie nous-mêmes, haine, querelle, rivalité, mais le fruit de l'Esprit, le résultat de laisser notre vie dirigée par Dieu, c'est de puiser notre force en lui, c'est l'amour et toutes les qualités qui suivent. Prions. Seigneur, aide-nous à rester attachés à toi, à nous laisser diriger par ton esprit et à porter le beau fruit de l'amour. Amen.